Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le nid de Pi pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous parle de l'histoire de la plus belle conquête de l'homme, le cheval et sa domestication. Que savons-nous finalement de la naissance du lien qui perdure depuis la nuit des temps entre l'homme et le cheval ? J'aurai ensuite la chance de recevoir Léa Briard, docteur en éthologie et actuellement post-doctorante au CRCA, le centre de recherche sur la cognition animale rattaché à l'université Toulouse Paul Sabatier. Elle vient aujourd'hui nous parler de prise de décision chez deux organismes vivants bien différents. Bonjour Léa et bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Le cheval partage notre quotidien et notre imaginaire depuis des lustres. Pour Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, il est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. Compagnon de chaque instant, moyen de transport, machine agricole, présent de luxe, marchandises ou machines de guerre, ils sont partout. Mais à quand remonte cette étrange association entre lui et nous ? Quand peut-on réellement parler de domestication ? Pour suivre ce rapprochement entre le cheval et l'humain, plusieurs pistes existent au croisement de l'archéologie et de la génétique. Car au fil des générations, l'humain sélectionne les individus qu'il veut faire se reproduire entre eux pour choisir des caractéristiques bien précises, le plus souvent morphologiques, qui lui plaisent ou lui semblent utiles. Des pattes plus allongées pour sprinter, des corps lourds et massifs pour tracter des charges importantes. Ces sélections vont aussi induire des changements au niveau de l'identité génétique de l'animal et petit à petit l'éloigner de l'animal sauvage au point de devenir une espèce à part entière. La domestication est donc un processus lent et difficile à délimiter dans le temps. Bien que domestiqué relativement tardivement, il y a environ 5500 ans selon les résultats de l'équipe d'Alan Outram publiée en 2009 dans le journal Science, le cheval a été le terrain de nombreuses expérimentations en matière de sélection. À travers le monde, on dénombre pas moins de 680 races de chevaux domestiques, auxquelles il faut ajouter 107 races désormais éteintes. Du solide trotteur français au massif percheron, du fin pur sang arabe à l'acalteke au poil doré, en passant par le gigantesque Shire ou le miniature poney Falabella, il y en a pour tous les goûts. Et n'oubliez pas, malgré leur aspect différent, poneys et chevaux appartiennent à la même espèce et peuvent se reproduire entre eux, si on écarte les incompatibilités de format. Selon la Fédération équestre internationale, un poney est un cheval mesurant moins de 148 cm au garrot, ni plus ni moins. A noter aussi que de nombreux chevaux domestiques forment à présent des populations férales qui vivent de nouveau à l'état sauvage un peu partout sur le globe, sans contact ou presque avec l'être humain. C'est par exemple le cas des Mustangs qui ont posé le sabot sur le continent américain au XVe siècle avec les conquistadors espagnols avant de reprendre les rênes de leur destinée. Toute cette variété interroge. Qui est à l'origine de cette incroyable diversité génétique ? On sait que le loup est à l'origine de notre chien domestique, ou encore que le sanglier a été transformé à force de sélection en cochon. Mais quel est l'ancêtre sauvage du cheval que l'on connaît aujourd'hui ? L'enquête est toujours en cours. Le genre Equus comporte aujourd'hui deux espèces domestiques, le cheval et l'âne, et sept espèces sauvages. Quatre résident en Afrique, l'âne sauvage d'Afrique, le zèbre de plaine, le zèbre de montagne et le zèbre de Grévy, alors que les trois dernières sont asiatiques. Il s'agit du Qiang, ou âne sauvage du Tibet, de l'onagre et enfin du cheval de Przewalski. Ce dernier, longtemps considéré comme le dernier cheval sauvage au monde, le seul à n'avoir jamais été domestiqué par l'homme, est au centre de vigoureux débats quant à son lien avec notre cheval domestique. Le cheval de Przewalski a, il faut bien le dire, une allure unique. Petit, trapu, doté d'une crinière noire et blanche en brosse, d'une raie de mulet noire dans le dos et d'un pelage ocre, il détonne dans les steppes de Mongolie aride où il vit. De plus, sa silhouette a traversé les âges. On retrouve des peintures rupestres de chevaux qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau sur les murs des grottes de Lascaux et de Chauvet-Pont d'Arc, datées respectivement de 19 000 et 36 000 ans. Il doit son nom à un colonel russe qui, lors d'une expédition naturaliste, rapporte un crâne et une peau au musée zoologique de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Bien connu dans le désert de Gobi où il vit, le conservateur Poliakov l'identifie comme une nouvelle espèce de cheval sauvage, auquel il adjoint le nom latin de Equus Przewalski en 1881. Mais ce n'est pas tout. Notre petit cheval est doté d'une particularité génétique. Il possède une paire de chromosomes de plus que nos chevaux domestiques. Mais il peut quand même s'accoupler avec eux et donner naissance à une descendance fertile. Et ce n'est rien de dire qu'il revient de loin. Chassé pour sa viande, il disparaît à vitesse grand V. En 1969, un étalon sauvage est observé seul, dans le désert, et l'espèce est au bord de l'extinction. Seuls 14 individus ont survécu dans différents zoos européens. Grâce à des programmes de reproduction, le nombre d'individus captifs s'élève à 1000 en 1990. Plusieurs initiatives voient le jour, dont celle de l'association TAC, qui crée un espace de 400 hectares en Lozère, où les animaux passent 10 ans en semi-captivité avant de retrouver leur Mongolie d'origine. 90 animaux sont ainsi réintroduits entre 1992 et 2004 avec succès. Mais peut-on considérer le cheval de Przewalski comme une espèce ancienne, proche des ancêtres de nos chevaux domestiques actuels ? Rien n'est moins sûr. Ces chromosomes additionnels iraient même plutôt à l'encontre d'un ancêtre commun entre le cheval de Przewalski et le cheval de domestique. Certains chercheurs pensent plutôt que les chevaux domestiques actuels seraient apparentés au tarpan, Equus ferus ferus, un petit cheval trapu gris-souris déclaré éteint en 1909. L'animal est parfois présenté, aujourd'hui en captivité, mais il s'agit en réalité d'une reconstruction, issue du croisement d'autres espèces actuelles proches morphologiquement de l'animal disparu. Deux grands projets aux ambitions bien différentes ont vu le jour à l'aube de la Seconde Guerre mondiale pour faire revivre le petit cheval gris. Le premier est mené par un biologiste polonais, Tadeusz Wetulany, qui s'intéresse à un petit poney gris aux caractéristiques proches du tarpan. Il lance alors un programme visant à sélectionner les individus aux caractéristiques typiques les plus marquées. Zébrures sur les pattes, rennes mulets noirs sur le dos, etc. Le programme d'élevage va bon train, mais la guerre change tout. Une bonne partie de ces animaux lui sont dérobés lors de la prise de Varsovie. Il poursuit après la guerre, mais le programme prend fin brutalement à la mort du scientifique en 1952. Cette race, issue de ces expérimentations, existe toujours et est appelée Konik, littéralement « petit cheval ». Le deuxième projet démarre en 1936 et est mené par les frères Eck. Le premier, Lutz Eck, est directeur du zoo de Berlin, pendant que son frère Heinz dirige le zoo au Tierpark Elabrunn de Munich. Pour faire revivre le tarpan, il croise des Konik polonais avec des chevaux de Przewalski, des poneys Gotland suédois et des chevaux islandais. Les deux frères jouent aussi les apprentis sorciers pour ramener l'auroch à la vie, animal aux cornes gigantesques, éteint depuis 1627. Mais leur motivation n'est pas uniquement guidée par l'amour de la zoologie. Lutz, l'aîné, a sa carte au parti nazi dès 1937, et amateur de parties de chasse, se lie très fortement d'amitié avec un certain Hermann Göring. Il profite du saccage du parc zoologique de Varsovie par les troupes nazies en 1941 pour shipper les plus beaux animaux qu'il rapatrie en Allemagne, et abat lors de parties de chasse privées et les autres spécimens. Il en profite aussi pour piquer une bonne partie des poneys coniques de Wetulany, notre biologiste polonais à l'origine du premier projet. Rien ne se perd. Son frère Heinz, quant à lui, sera envoyé pour un court séjour à Dachau, suspecté d'adhérer aux idées du communisme et pour avoir été marié un temps à une juive. Leurs destins prennent des chemins radicalement différents pendant la guerre, mais l'idéologie de la race pure guide en tout cas Lutz dans son désir insatiable de recréer des espèces préhistoriques disparues. Mais je m'égare, revenons à nos chevaux. Qui est aujourd'hui à l'origine de nos compagnons domestiques ? Tarpan ou Przewalski ? Pas si simple. Dans son article publié dans le journal Science en 2018, Charlene Gonitz et ses collaborateurs ont séquencé 42 échantillons d'ADN de chevaux anciens, dont 20 viennent du Botaï et 22 viennent d'Eurasie. Botaï est le nom que l'on donne à une région et à une culture humaine préhistorique des steppes du Kazakhstan. C'est au sein de cette culture Botaï que l'on a retrouvé les premières traces archéologiques de harnais et d'enclos destinés aux chevaux, ainsi que de consommation de lait de jument par les humains il y a environ 5500 ans. Les scientifiques ont ensuite comparé ces 42 échantillons d'ADN anciens à des génomes de chevaux de différentes époques, notamment des ADN de chevaux de Przewalski. Et là, bam, le résultat des analyses est sans appel. Les chevaux de Przewalski sont les descendants féraux de ces chevaux du Botaï. Ils ne sont donc pas purement sauvages, mais seraient redevenus après avoir été domestiqués. Et tous les chevaux domestiques vieux de 4000 ans à nos jours ne présentent que 2,7% d'apparentement avec les chevaux du Botaï. Ce qui veut dire qu'une autre espèce de chevaux serait principalement l'ancêtre de nos chevaux domestiques actuels. Mais laquelle ? Un autre article paru en mai 2019 dans le journal Cell, impliquant une équipe internationale de 121 chercheurs menée par deux Toulousains, Antoine Fage et Ludovic Orlando, ont creusé le sujet. Ils ont séquencé 278 génomes d'équidés fossiles venant des quatre coins de l'Eurasie. Et qu'ont-ils découvert ? De nouvelles lignées de chevaux éteints. L'une présente en Espagne et une seconde en Sibérie. Nous voilà donc non pas avec deux lignées, celle des chevaux domestiques actuels et celle des Przewalski, mais avec quatre. Le hic, c'est que ces deux lignées n'auraient pratiquement pas contribué à la diversité génétique de nos chevaux contemporains. Il semblerait en effet que ce soit les chevaux orientaux venus de Perse qui auraient eu la plus forte influence sur la génétique des chevaux domestiques actuels. L'équipe a aussi pu observer que la diversité génétique du cheval était restée foisonnante, malgré la domestication. Cette diversité, restée stable pendant des milliers d'années, s'est brutalement effondrée au cours des deux derniers siècles à cause d'une sélection artificielle intensive et poussée à l'extrême. L'histoire du cheval et de sa domestication reste encore aujourd'hui un sacré sac de nœuds. Mais si on devine que notre relation est ancienne, difficile de statuer sur comment tout cela a réellement débuté et comment elle va évoluer. Une chose est sûre cependant, les chevaux ont forgé leur légende et gagné leur place dans l'histoire humaine aux côtés de figures historiques et emblématiques, réelles et fictives. Qu'aurait fait Alexandre le Grand sans Bucéphale ? Incitatus, le cheval de Caligula, méritait bien son abreuvoir en marbre et sa médaille. Le million de chevaux et d'ânes tombés dans les tranchées de la Grande Guerre aussi. Et sans le beau Tornado, Zorro se serait fait pincer tout de go. Et que serait-il advenu de Lucky Luke sans Jolly Jumper à ses côtés ? Sans eux, nous sommes tous un peu de poor lonesome cowboy, far away from home. Et nous revoici avec notre invitée, Léa Briard, docteur en éthologie et post-doctorante au CRCA, le Centre de recherche sur la cognition animale, rattaché à l'Université de Toulouse Paul Sabatier. Elle vient nous présenter ses travaux sur la prise de décision chez les animaux. Alors, pour commencer avant toute chose, c'est quoi la prise de décision ? Pourquoi est-ce si important de l'étudier chez les animaux ?
Alors la prise de décision, moi je dirais qu'on peut tout simplement la définir comme étant faire un choix.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a deux options ou plus et il faut choisir entre ces options. On peut aussi choisir aucune option. Et alors, pourquoi c'est important de l'étudier ? L'idée, c'est de comprendre, par exemple, dans les groupes d'animaux, ça va être comment les sociétés animales fonctionnent, comment une société d'animaux, comment un groupe d'animaux peut prendre une décision, comment ils arrivent à prendre une décision. Pour les animaux, un organisme unique, ça va être vraiment de comprendre quels sont les paramètres des options qui lui permettent de faire ce choix. Qu'est-ce qu'il va préférer ? Pourquoi il préfère une option plutôt qu'une autre ? Et évidemment que, in fine, ça nous permet aussi de faire un parallèle avec nos propres capacités de choix. Mais il y a vraiment, en termes de prise de décision, on va dire, d'un point de vue fondamental, tout simplement comment un animal, quel qu'il soit, tout dépend de celui qui nous intéresse, prend des décisions au quotidien.
Mais quels sont les enjeux de ces choix ? J'imagine que c'est important de savoir choisir et sans doute rapidement.
Exactement. Tous les animaux, tous les organismes sont soumis à des pressions de sélection, à du danger, et ont pour objectif de se reproduire et de passer, on va dire, leur génétique, leur gène à leur descendance et donc la génération suivante. Donc les choix, ça va être choisir un partenaire sexuel de qualité, idéalement le meilleur. Ça va être choisir le meilleur habitat pour la survie, donc avec la meilleure nourriture. Ça va être décider, par exemple, dans une journée où aller, quand s'y déplacer, éviter les prédateurs, trouver la meilleure nourriture, éviter les compétiteurs, ce genre de choses. Pour nous, prendre des décisions, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire trouver le meilleur resto, qu'est-ce qu'on a envie de manger. Enfin voilà, ça, on peut faire un peu aussi des parallèles avec notre quotidien qui n'a plus grand-chose de naturel, mais où on est un peu soumis aux mêmes choses. Trouver le meilleur partenaire sexuel.
Il faut toujours choisir.
On choisit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait que des choix tous les jours.
Et chez les espèces sociales, alors on peut aussi faire un parallèle chez l'humain, qui est aussi une espèce très sociale,
oui,
mais qui vit en groupe. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul animal qui va décider et initier, par exemple, un mouvement ? Par exemple, c'est vrai qu'on voit souvent les exemples de foule, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est en vrai? Est-ce qu'une décision peut être prise à plusieurs ou non?
Alors, ça dépend. Donc, ça va dépendre des situations. Chez les animaux, en tout cas, sociaux, donc pour ceux qui vivent en groupe, l'idée d'individu unique qui décide pour tout le monde, donc on va appeler souvent un leader, on l'a pas, ça a longtemps, cette idée, elle a longtemps perduré, on l'a longtemps cherchée. Donc, par exemple, pour tout ce qui est vol des tourneaux, donc c'est quand même des centaines, voire des milliers d'animaux qui volent dans le ciel, pour les bancs de poissons, il y a pendant longtemps, on pensait qu'il y avait un animal qui décidait.
Ok.
Aujourd'hui, ça paraît quand même un peu farfelu, dans le sens où il y a tellement d'animaux, pour arriver à communiquer avec tous ces animaux en même temps et avoir la rapidité de réaction par rapport à une attaque de faucon ou une attaque de requin, ça paraît un peu invraisemblable. Et donc cette idée-là, elle a assez vite disparu quand il s'agissait des très grands groupes d'animaux. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on s'est rendu compte et on sait maintenant aujourd'hui que c'est des règles assez simples locales de coordination avec les animaux qui nous entourent, par exemple dans ces grands bancs de poissons, dans ces grandes nuées des tourneaux, et qu'on va juste, enfin, ils vont en partie chercher à s'aligner et à maintenir une distance correcte pour pas être trop éloigné, parce que tout animal social cherche à surtout rester dans le groupe pour éviter de se détacher et d'être pris pour cible par un prédateur, par exemple, et en même temps pas trop près parce que sinon c'est la collision. Donc du coup ça va être ça. Pour ce qui est des plus petits groupes d'animaux et notamment chez ce qu'on aurait pu appeler pendant un bout de temps les plus complexes ou plus intelligents, donc on va être les primates, les humains compris. Là, c'est des plus petits groupes et on a surtout, dans les grands bancs de poissons, dans les grandes nuées des tourneaux, tous les individus sont un peu considérés équivalents. Il n'y a pas vraiment d'individus particuliers. Enfin, ils ne sont pas identifiés. Puis, jusqu'à ce qu'on ait la technologie, c'était compliqué d'identifier tout le monde individuellement.
Ils sont tellement nombreux.
Voilà, exactement. Et ils se ressemblent tous. Et puis, avec cette idée qu'ils étaient un peu pas moins complexes, moins intelligents, donc pas forcément d'individualité. Chez les primates, en revanche, ou chez d'autres espèces, les chevaux par exemple aussi, c'était beaucoup plus simple d'individualiser les animaux, de les identifier individuellement. Et puis, il y avait cette idée qu'ils étaient très complexes, qu'ils avaient une intelligence, surtout les primates, et que forcément, donc, les processus de décision allaient être hyper complexes. Et donc, il y allait avoir un leader. Et donc ça, par exemple, chez les gorilles, souvent on se disait le mâle, c'est le gros mâle dominant, c'est lui qui décide pour tout le monde. Et d'ailleurs, quand on regardait quand il se déplaçait, c'était souvent lui qui était en tête, etc. etc. Et en fait, quand on a regardé, quand les chercheurs ont regardé en fait, ce qui se passait avant un déplacement, donc avant qu'il décide de changer, justement de choisir entre plusieurs destinations et de quelle était la prochaine destination du groupe, ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de vocalisations avant le départ et que les femelles, donc les gorilles vivent un mâle dominant dos argenté, il y a souvent d'autres mâles qu'on va appeler des dos noirs qui peuvent être dans le groupe, et puis des femelles adultes et puis les plus jeunes. Il y avait beaucoup de vocalisations avant avec les femelles, etc., des échanges vocaux. Et donc on s'est dit, en fait, il y a peut-être quelque chose qui se passe avant, et puis en fait, après, derrière le départ du mâle en premier, c'est pas forcément qu'il a pris la décision, il ne fait que finalement suivre le choix qui a été décidé avant par le groupe. Donc on s'est rendu compte que finalement, voilà, il n'y avait pas de leader à proprement parler, un individu unique qui décide pour tout le monde. Et puis après, en fait, en faisant le parallèle avec les nuées de poissons et les étourneaux, on s'est rendu compte que même les groupes d'animaux très complexes, avec un cerveau développé, etc., et des comportements complexes, finalement, répondaient aussi à des règles très simples de suivi, de maintien de distance, etc. Et que chez les animaux très nombreux, qu'on disait pas très complexes, il y a aussi finalement des choses qui reposent sur l'individualité, sur l'individu, que si on a faim, si on a un tempérament, une personnalité en particulier, si on est un mâle, une femelle, si on est gestante, pas gestante, ça va jouer aussi sur la prise de décision.
Et donc, il y a quand même une sorte d'échange. En tout cas, pour l'exemple des gorilles, il y a une espèce de communication vocale, sans doute, avant le départ.
C'est ça.
Comme si les animaux se mettaient d'accord.
C'est ça. Alors après, qu'est-ce qu'ils se disent?
Oui.
Ça, on ne sait pas encore. Mais l'idée, c'était, si on part sur des postulats assez simples, ça peut être tout simplement montrer sa motivation à changer d'activité. Donc, pour étudier la prise de décision chez les animaux, on utilise beaucoup les déplacements. C'est-à-dire, on regarde où les animaux vont, quand est-ce qu'ils y vont, dans quel ordre ils se déplacent, etc. Pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, effectivement, si on part vraiment sur un postulat assez simple, On peut se dire que c'est juste, ben, y a une phase de repos, puis là, la phase suivante, c'est une phase d'activité, et simplement, le fait de vocaliser, on montre finalement qu'on est plus ou moins motivé à changer, à passer du repos à l'actif. À ça peut être déjà pas mal. Après, chez les babouins, par exemple, la madrias, donc, qui vivent en harem aussi, donc un mâle, plusieurs femelles, mais qui après se rassemblent en très 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 grandes troupes, mais vraiment gigantesques. Y a des études assez anciennes qui montraient que entre les mâles, se passait la prise de décision et ils allaient finalement s'influencer les uns les autres sur l'orientation future. Donc chacun montrait un peu la direction où il avait envie d'aller. Puis après, les mâles qui voulaient passer les uns devant les autres et montrer la direction où ils voulaient aller, eux, pour essayer d'influencer la direction de celui qu'ils approchaient, pour que petit à petit, à la fin, la majorité, ou en tout cas, on va dire la grande partie du groupe, soit d'accord sur la prochaine direction. On a des choses comme ça.
Et donc, on le disait, dans ces groupes sociaux, il y a plein d'animaux différents, des mâles, des femelles, des juvéniles, des adultes. Est-ce qu'on a identifié des caractéristiques qui seraient susceptibles de rendre un animal leader, décisionnaire au sein de son groupe? Est-ce que c'est sa force physique, son âge, son sexe, ou c'est encore un grand mystère?
Y a pas de généralité. Donc, j'ai fait ma thèse sur les comportements collectifs et la prise de décision donc, chez les chevaux. Et effectivement, comme pour les gorilles, on a la même donc chez les chevaux domestiques, il y a la même organisation sociale si on laisse ces chevaux domestiques retourner à l'état féral. Donc, on ne dit pas sauvages parce qu'ils ne sont pas sauvages, c'est des espèces domestiques, mais en tout cas sans intervention de l'homme. C'est un étalon. Parfois, il y en a effectivement un ou deux plus d'étalons qui tournent autour, mais souvent c'est un étalon, quelques femelles et les juvéniles. Et souvent, du coup, il y avait aussi ce mythe de l'étalon leader, l'étalon qui prend des décisions, qui impose son choix, etc. Et en fait, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec des chevaux domestiques ou avec des éleveurs qui laissaient leur étalon vivre toute l'année avec leur jument. Et en fait, en tout cas, chez les animaux que moi, j'ai étudiés, et puis ça s'est confirmé en comparant aux études dans d'autres groupes de recherche, l'étalon n'a pas de rôle plus particulier que les autres juments. Finalement, en fait, lui, ce qu'il cherche à faire surtout, c'est à protéger ses juments, à les garder près de lui. Et donc, on ne peut pas vraiment faire les deux, a priori. C'est compliqué de surveiller et en même temps de mener. Ouais. Donc, lui, il va plutôt être à l'arrière, dans ce que moi, j'ai trouvé pendant ma thèse. Plutôt à l'arrière, plutôt un rôle de surveillance et de maintien de cohésion du groupe, donc en les poussant, etc., en les rassemblant un peu comme un chien de berger. Mais en dehors des déplacements collectifs, et il ne va pas forcément imposer son choix. D'ailleurs, très souvent, on avait des situations où donc, les juments sortaient de la sieste et lui, il était encore en train de dormir, que le groupe s'était barré depuis longtemps. Donc
il se retrouvait tout seul.
Ouais, exactement, c'était un peu ça. Donc, chez les chevaux, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a en effet des personnalités beaucoup et de l'âge. Et ce n'est pas impossible que ce soit aussi un peu lié. Donc, on a les animaux les plus âgés, les juments les plus âgés sont souvent celles qui vont prendre la tête. Alors ça ne veut pas dire, comme on vient de le dire, qu'elles prennent la décision, mais en tout cas c'est elles qui prennent la tête. Et qui vont en fait, parce que commencer un déplacement, ça veut dire s'éloigner du groupe.
C'est un risque.
Oui, ça peut être un risque. Ouais. Alors évidemment, ça c'était des choses qu'on nous reprochait quand on exposait cette hypothèse, puisque c'est vrai que nos chevaux sont dans des prés, donc le risque est relativement minime, il n'y a pas trop de prédateurs. Mais cet instinct est relativement fort chez le cheval, et on voit que ça, effectivement, leur capacité à retourner à un état, si on dit entre guillemets sauvage, féral, nous montre que finalement ils ont conservé quand même une grande partie des caractéristiques qui leur permettent de survivre dans l'environnement. Et dans la nature. Et donc, en fait, cette jument plus âgée va s'éloigner et puis va se faire suivre par les congénères. Et on a un effet de la personnalité. Donc, les animaux les plus téméraires, les moins sociaux, c'est-à-dire qui passent plus de temps en périphérie du groupe, en tout cas qui ont une capacité à pouvoir s'éloigner, on va dire, du groupe et qui ne sont pas trop grégaires, pas trop stressés par l'isolement social, vont être ceux qui vont avoir plus de facilité aussi à s'éloigner. Et il se trouve que dans certains groupes, ce n'était pas forcément le cas dans tous mes groupes, on avait une corrélation entre les plus âgés et le fait d'être plus téméraire. Donc possiblement aussi quelque chose d'une indépendance sociale, on va dire, qui s'acquiert avec l'âge. Donc ça, c'est chez les chevaux. Mais après, déjà chez leurs cousins, zèbres, etc., on peut avoir un effet aussi de l'allaitement. Donc ça peut être quand les juments allaitent, en fait elles ont des besoins en eau plus importants. Donc en fait ça peut aussi dépendre de quelle destination, ça peut être finalement dépendant de la situation. Est-ce que les juments qui allaitent vont finalement être celles qui vont essayer de démarrer le déplacement et le départ pour les points d'eau, parce que c'est ce dont elles ont besoin. Et puis peut-être d'autres, ce sera pour des points de nourriture ou pour des zones de repos. Voilà, ça peut aussi dépendre des situations. Et après, chez d'autres animaux, oui, en fait, c'est très variable. Il peut y avoir un effet de la dominance, de la hiérarchie, sur l'influence qu'on peut avoir sur le groupe. Mais c'est jamais complètement... c'est jamais une décision centrée sur un individu. Ça va toujours au moins à moitié partagé.
Il y a aussi ces échanges, ces vocalisations avant un déplacement chez les chevaux ?
Alors, c'est en débat. moi, je n'ai pas constaté particulièrement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le hennissement, par exemple, qu'on entend beaucoup aussi dans les films, etc. Alors qu'un cheval, ça hennit relativement peu. C'est souvent quand les chevaux sont séparés et que c'est des appels. Pour s'appeler, qu'ils ne se voient pas. Mais il y a pas mal de vocalisations, je pense, nous, humains, on n'entend pas, ou qu'il faut vraiment faire la démarche de les enregistrer pour pouvoir savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Mais par exemple, chez les licaons, ils ont montré qu'ils votaient en éternuant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant le départ, il y a une augmentation des éternuements et que le nombre d'éternuements est lié, en final, au succès du déplacement. C'est-à-dire, par succès, on entend que... Il n'y a pas de leader, on va dire, il n'y a pas d'initiateur sans suiveur. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un individu qui s'éloigne, qui dit bon, allez, on y va. Et puis il n'y a personne qui suit, donc bon, bah, il retourne au groupe et puis il attend que tout le monde soit motivé. Voilà. Et donc là, c'était voilà, plus il y avait d'éternuements et probablement ça montrait la motivation, finalement un peu l'excitation générale, la motivation à changer de lieu et à se déplacer. Plus le déplacement qu'elle allait suivre avait du succès. Donc il y a des vocalisations, oui.
Pour se mettre d'accord.
Ouais, pour se mettre d'accord, voilà, éternuer.
C'est assez cocasse.
C'est ça, votons en éternuant.
Et donc on le disait, donc les talons finalement, donc vous le disiez, au niveau de la structure sociale, il y a cet étalon, il y a les femelles, les juvéniles. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez pu tester en pratique le rôle de l'étalon dans vos prés ? À quoi ressemblaient vos expériences ?
Alors du coup, nous, ce qu'on a fait pour... donc on voulait poser cette... On s'est posé cette question, donc genre, bon, est-ce que les talons jouent vraiment un rôle ? Parce qu'il y a un peu quand même ce mythe-là qui traînait, finalement. Alors pour les spécialistes du cheval, c'était plus vraiment un mythe. On voyait bien que c'était pas forcément un individu qui avait un poids plus important qu'un autre dans la prise de décision. Mais ça traînait notamment chez les gens chez les chercheurs qui s'intéressaient peut-être à la prise de décision, mais qui n'étaient pas spécialistes du cheval. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a retiré. Okay. Donc, en fait, on a profité que les éleveurs, pendant une certaine période, retiraient les étalons pour éviter d'avoir des naissances trop tôt. Et donc, on a continué à étudier le groupe de juments et on a regardé comment se passaient les déplacements en son absence. Et en fait, ce qu'on a... regarder, c'est est-ce que si vraiment cet étalon jouait un rôle particulier dans la prise de décision, on s'attendait à ce que ça prenne des plombs, qu'ils n'arrivent pas à prendre de décision, que voilà, ça traîne en longueur, que ce soit désorganisé. En fait, pas vraiment. Les juments s'en sortent très bien sans lui. Enfin, la chose qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, comme il n'est pas là pour rassembler les juments, parce que c'est vrai qu'en dehors des déplacements, il avait tendance à jouer le chien de berger et à ramener les juments et à les maintenir un peu plus cohésives que ce qu'elles étaient quand il n'était pas là. En fait, comme le groupe est plus éclaté, on avait des déplacements qui étaient plus lents et on a supposé que c'était parce que les distances étaient plus grandes. Donc en fait, ça se vérifie aussi presque dans tous les groupes d'animaux. Plus on est éloigné, plus en fait l'influence qu'on peut avoir les uns sur les autres est un peu diluée avec la distance. Mmh. Alors ça peut être plusieurs choses. Soit on n'est pas à côté, donc on... les chevaux, par exemple, les proximités entre les animaux aussi reflètent des préférences sociales. Donc, on va avoir tendance aussi dans beaucoup de groupes d'animaux, de groupes sociaux où les relations sociales sont importantes, puis des groupes stables où voilà, il y a des relations sociales et un réseau social qui se construit. On va influencer plutôt les copains que ceux avec qui on passe moins de temps. Et puis, il y a aussi le fait simplement d'être loin. Et donc, par exemple, de percevoir qu'un animal est en train de s'éloigner quand il est à 10 mètres, on le voit assez facilement. Quand il est à 100 mètres, si on n'a pas une profondeur de champ, une précision...
Puis, s'ils sont occupés à brouter ou à faire la sieste...
C'est ça. Exactement. Alors après, les chevaux voient presque à 360. Donc, c'est vrai qu'ils arrivent à voir à peu près tout le monde. Et c'est plutôt que... Voilà, quand un animal est plutôt déjà à 100 mètres, c'est compliqué de voir qu'il est en train de s'éloigner de 10 mètres. Enfin, on va réagir moins vite. Ouais. Donc on avait des déplacements qui étaient plus lents, qui prenaient beaucoup plus de temps à se mettre en route. Donc c'est-à-dire que on avait l'initiateur du déplacement mettait beaucoup de temps à recruter l'ensemble du groupe, etc. Donc en fait on a qualifier le rôle de l'étalon comme un catalyseur, c'est-à-dire qu'en fait, du fait qu'il maintienne la cohésion du groupe, il permet finalement des déplacements collectifs plus rapides.
Plus rapides, plus
efficaces. En revanche, si la décision a lieu avant, là, on n'a pas remarqué d'intervention particulière de l'étalon.
On voulait swinguer et hocher de la tête en rythme le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Once I heard you say you would build me a house, dreams and walls so true. C'était Didn't You Say, extrait de l'album Float Back to You du groupe Holy Hive. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Léa Briard, docteure en éthologie et postdoctorante au CRCA, le centre de recherche sur la cognition animale rattaché à l'université Toulouse Paul Sabatier. Alors on en discutait avant la pause, vous avez étudié au cours de votre thèse les relations sociales au sein de groupes de chevaux domestiques et déterminé les facteurs à l'origine d'une prise de décision. Aujourd'hui au CRCA de Toulouse, vous travaillez toujours sur la prise de décision en tant qu'éthologue, mais pas du tout sur un animal. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre sujet d'étude actuel ?
Alors c'est vrai que j'ai fait un peu le grand écart au niveau modèle animal, enfin du coup modèle pas du tout animal. Donc moi je travaille sur Physarum polycéphalum. Qui a été, on va dire, rendu célèbre par une figure locale, Audrey Dussetour, et qui lui a donné le petit nom très affectueux et plus facile à prononcer de Blob. Donc depuis 2 ans, en fait, je travaille avec elle au CRCA pour, étudier en fait la prise de décision chez cet organisme unicellulaire qui n'est pas un animal.
À quoi il ressemble, Blob ? Où est-ce qu'il vit ?
Le Blob, alors Physarum, donc on va parler surtout de lui, parce que c'est lui qu'on étudie, donc Physarum polycéphalum. Il aime bien les sous-bois humides, il n'aime pas du tout la lumière. En fait, il vit dans la litière de forêt, il mange les bactéries, la matière organique.
On peut le trouver dehors.
Oui, d'ailleurs, depuis que Audrey lui a l'a rendu célèbre, elle reçoit, et moi aussi, régulièrement des gens qui nous envoient des photos en disant est-ce que c'est vraiment un blob, etc. Donc souvent, c'est une autre espèce qui ressemble un peu à de la mousse expansée qu'on met dans les maisons. Et lui, c'est Fuligo septica, c'en est un autre. Mais on a quand même des gens qui nous envoient des photos de salle de bain, de pas de porte. Ils en trouvent même vraiment des géniaux, des roses. Donc lui est jaune, celui qu'on étudie, mais c'est vrai qu'il y en a de toutes les couleurs. Et on est un peu, chaque fois qu'on nous envoie ces photos et qu'on aimerait voilà, que les gens nous envoient des échantillons pour récupérer les spécimens, c'est un peu comme les Pokémon, on les veut tous. On veut tous les attraper, donc on veut vraiment le rose, le jaune, le noir, voilà, etc. Et donc, voilà, c'est un animal qui... Pardon, c'est un organisme qui vit voilà, dans les sous-bois et souvent... en tout cas, quand moi je le trouvais, c'était un peu comme pour les champignons, c'est-à-dire il fait bon, il vient de pleuvoir, ça c'est vraiment le truc super pour eux, quoi.
Donc de l'humidité, pas trop chaud, pas trop froid.
Exactement.
Et donc cet organisme particulier, donc qui est, on le répète, ni un animal, ni un végétal, ni un champignon.
Exactement.
C'est une seule et unique cellule.
C'est ça.
Donc c'est vrai que c'est un peu dur à s'imaginer la chose, mais malgré tout, le blob est capable de se reproduire, il a un cycle de vie un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ces grandes étapes de vie du blob ?
Alors, donc effectivement, c'est une grande cellule. Donc c'est un peu comme un papillon, ça va avoir plusieurs stades, on va dire. Donc nous, on travaille sur ce qu'on appelle la phase plasmode, qui est donc cette cellule géante jaune vif polynucléée. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, quand nos cellules se divisent, on va avoir deux noyaux, puis ça va donner deux cellules. Lui, les noyaux se divisent, mais la cellule ne se divise pas.
D'accord. Donc il y a plein de noyaux dans
cette cellule. Des millions. Okay. Ouais. Et il a une capacité de croissance, il double presque tous les jours quand on lui donne suffisamment de nourriture. Et il peut faire jusqu'à plusieurs mètres carrés sans problème.
Wow.
Il y a des forêts qui ont été séquencées, ils ont trouvé qu'un seul individu. Donc voilà. Donc,
dans
ça
toute
peut être...
la forêt.
Donc ouais, dans toute la forêt. En tout cas, donc voilà, donc ça peut être très très grand. Donc ça, c'est vraiment une espèce. Ça ressemble à. C'est compliqué à décrire, mais ça, c'est vraiment, c'est visqueux, c'est jaune. Moi, j'aime bien l'odeur, je trouve que ça sent le humus, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça se déplace, en fait, c'est ça qui est assez fou. Et donc après, cette phase plasmode, qui n'est pas une phase, on va dire, qui n'est pas la phase reproductive, mais qu'on appelle végétative, en fait, si elle est exposée aux bonnes conditions, et notamment à la lumière, que le plasmode, donc cette grosse cellule géante mobile, déteste, il va en fait se transformer et donner des spores, comme les champignons. C'est ce qui fait aussi qu'il a été classé longtemps parmi les champignons, c'est qu'il fait des spores.
Qui relâche dans l'air, du coup ?
Alors voilà, ça fait des petits sporanges, enfin, des petites tiges avec au bout une boule, et puis dedans il y a des spores, puis il suffit d'un coup de vent, de la pluie souvent, et la pluie étant des conditions très favorables pour ces spores, ça paraît logique que... Enfin, disons que c'est assez élégant, la pluie finalement va déclencher l'ouverture de ces spores, qui va relarguer donc des cellules, des petites spores qui sont les cellules de reproduction, donc un peu comme les spermatozoïdes ovules. Et puis, il va faire de la reproduction sexuée, donc c'est-à-dire qu'il va deux cellules de deux blobs compatibles sexuellement vont se rencontrer, vont fusionner, comme chez nous, en fait, spermatozoïdes ovules. Et puis, ça va donner, du coup, après, un microplasmode, un petit blob. Et puis, il va manger, puis il va grandir, et puis il va redevenir cette grosse cellule géante, et puis ça va... Le cycle infini. Après, la beauté de ce modèle, contrairement aux chevaux, c'est que il a aussi un stade de dormance, qui est que quand il n'y a pas des conditions favorables, notamment pas de nourriture, qui fait sec, il va sécher, se vider complètement de son eau, et il peut rester comme ça des années. Et il va suffire, en fait, de... Très pratique. Et il va suffire de le réhumidifier, de lui redonner un petit peu d'eau, et en 2 heures, après, donc, par exemple, des années de dormance, 2 heures après, on a un blob... viable. Et nous, on utilise même ça à notre avantage parce que on a une forme un peu de sénescence, de vieillissement de la grosse cellule mobile qu'on étudie. Au bout d'un mois, à peu près, il va commencer à être un peu moins rapide, à être un peu plus lent, peut-être être sujet à des infections. On l'endort, on le réveille, il est comme neuf.
Ok, voilà. Ça fait une cure de jouvence.
Hein, c'est ça. Et donc, Audrey travaille avec des blobs qui... ça fait bien 60 ans qu'ils sont utilisés et on ne sait pas à quel âge ils avaient quand déjà ils ont été récupérés.
Ah, c'est assez impressionnant. Alors, donc, comme on le disait, les blobs doivent se rencontrer pour se reproduire. Donc, Une question sans doute un peu naïve, mais est-ce que les blobs sont sociaux? Est-ce qu'ils recherchent le contact de leurs congénères, si je puis dire?
Bah, un petit peu quand même, justement parce qu'ils doivent se reproduire. Alors, ils sont capables de... La spore est capable de donner un plasmode sans reproduction sexuelle.
Ok. Donc tout seul?
Tout seul. C'est juste que génétiquement...
En passant par les spores ou pas?
Oui, il fait quand même des spores, okay. Une petite spore, et donc elles vont être haploïdes, c'est-à-dire qu'il va y avoir que la moitié de... Comme pour nous, hein, les ovules et les spermatozoïdes, donc la moitié du matériel génétique, là, ça va être pareil, et donc on va avoir un plasmode haploïde.
Qui sera un clone exact de,
exactement,
de celui
qui aura juste passé par ce stade de spore. D'ailleurs, nous, on en utilise quelques-uns au laboratoire. Et donc, ils sont forcément un peu sociaux dans le sens où bah, il y a effectivement un besoin de rencontre pour pouvoir faire cette reproduction sexuée. Après, pour ce qui est du plasmode lui-même, ce gros plasmode, cette phase non sexuelle, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, alors là, je vais parler de recherches qui n'ont pas été faites par moi, mais qui ont été faites par Audrey et par son ancien étudiant de thèse, David Vogel. En fait, ce qu'ils ont montré, c'est que le blob, en fait, produit des substances qui vont attirer les autres. Donc, notamment quand il mange, etc., il relâche du calcium qui est attractif pour les autres et par lui-même. Mais en même temps, il va y avoir aussi des problèmes d'incompatibilité de plasmode. Donc, par exemple, elle joue avec plusieurs souches. Donc, on aime bien raconter cette histoire. Donc, elle a une souche américaine, donc qui vient des États-Unis, une souche qui lui a été fournie par un collègue japonais, et puis une souche qui vient d'Australie. Et si elle met les deux dans la même boîte, y en a un qui mange l'autre. Donc voilà, donc il y a des Pearl Harbor, le remake, où effectivement, voilà, y en a un qui court après l'autre. Les blobs peuvent fusionner quand on les met en contact. Et là, effectivement, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre.
Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire qu'il pourrait fusionner et faire un gigablob hybride oui. Japonais-américain.
Voilà, exactement. Mais non. Il faut passer par ça. Ils pourraient mélanger leur génome s'ils sont compatibles, mais il faudrait passer par la phase spore. Donc ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure en le présentant. C'est donc son autre incroyable capacité, cette grosse cellule géante mobile, c'est qu'on peut la couper en plein de petits morceaux. Chaque petit morceau se comporte de manière indépendante. Et si on remet ces morceaux côte à côte, ils refusionnent et redonnent la grosse cellule de départ. Ça a une capacité de cicatrisation de 2 minutes.
Ok. Donc, ah oui, c'est
nous, nous, on les coupe tous les jours parce que vu qu'ils doublent tous les jours, ils s'échapperaient. Et on les maintient à une taille respectable et utilisable. C'est pas social dans le sens où on va pas avoir, comme les groupes de chevaux, des groupes de blobs, a priori. Mais on sait pas grand chose de ce qui se fait en nature. C'est-à-dire que c'est compliqué à observer.
Oui.
Et donc, on ne sait pas, on commence à le découvrir. C'est vrai qu'Audrey a entamé cette démarche de l'étudier d'un point de vue, et puis des collègues aussi précédemment, mais c'est vrai qu'à utiliser la démarche d'observation, de l'éthologie, pour étudier cet organisme qui n'est pas un animal et pour voilà, mieux comprendre son comportement.
Donc, il est social parce qu'il a besoin de trouver des partenaires, mais en même temps, il risque de se phagocyter l'un l'autre.
Ouais,
si
c'est ça, ça dépend du stade.
Donc, ça limite un peu. Donc, vous étudiez la prise de décision chez ce blob. Alors, avant, vous travailliez sur des groupes de chevaux, des animaux avec des personnalités différentes.
Mm-hmm.
Comment ça se passe avec le blob? Déjà, est-ce qu'il y a des blobs différents au niveau de leur comportement? Comment est-ce que vous le testez? Parce que j'imagine que le déplacement, parce que là, vous êtes en laboratoire avec des boîtes de pétri, c'est quand même pas les mêmes conditions.
C'est pas pareil. En même temps, on fait des choses assez, on fait des choses assez similaires. Donc oui, on a des blobs qui se comportent de manière différente. On a effectivement plusieurs, on les appelle des souches, donc en fait des individus génétiquement différents, qui vont montrer des caractéristiques de déplacement différentes. Donc on va en avoir des très lents, on va en avoir des très rapides, on va avoir...
Qui sont tous des polycéphalomes, c'est
tous,
la même...
ouais, okay. Tous, même espèce.
Ok.
On n'a pas encore essayé de les faire se reproduire, c'est pas si simple. Donc voilà, ils ont des modes de déplacement différents. Ils ont des modes d'exploration différents. Donc, en fait, finalement, un test de personnalité qu'on fait beaucoup avec les animaux, c'est de les mettre dans un environnement nouveau, dans des arènes, par exemple, et puis de regarder comment ils se déplacent. Est-ce qu'il frise complètement, il ne bouge pas du tout, il est complètement tétanisé, ou est-ce qu'il va plutôt explorer toute l'arène, tournifler, sauter dans tous les coins pour essayer de s'échapper, ce genre de choses, enfin, être très actif. Mais on a un peu la même chose chez Physarum. Donc On va le mettre dans des arènes, dans des boîtes de pétri, puis on va regarder la forme qu'il prend et comment il explore. D'accord. Et il y en a qui vont avoir une croissance très symétrique, qui vont vraiment juste grandir dans toutes les directions.
En cercle un peu.
Un peu en cercle, et exactement. Ou il y en a qui vont, par exemple, donc lancer des petites veines, des petits pseudopodes dans un coin, et puis faire tout le tour. Alors souvent, les très rapides ont tendance à faire ça, lancer un petit pseudopode, et puis ils font le tour. On va avoir aussi des aversions différentes aux répulsifs. Donc ça, les études précédentes qui ont été menées par Audrey ont montré qu'il était... qui pouvait par exemple aussi s'habituer et qu'il avait une certaine forme de mémoire, donc s'habituer à des répulsifs comme le sel, qu'il n'aime pas du tout. Et puis en fait, quand on a testé ces différentes souches, on a vu que ces différents individus n'avaient pas le même degré de répulsion au sel et qu'ils ne s'habituaient pas à la même vitesse.
Donc
même
un défaut. Blob japonais ou un blob américain ne vont pas réagir de la même façon.
Exactement.
Au sel. Okay.
Exactement. Et puis il y en a même qui l'aiment un peu. Donc vraiment, il y a des différences notables, en tout cas, de ce point de vue-là. Et donc c'est vrai que du coup, on a fait le parallèle avec ce que moi, j'ai faisais en thèse, qui était donc d'étudier les effets de l'individualité sur la prise de décision collective. Et bien là, c'était d'étudier l'effet de ces personnalités, si on veut dire. C'est un peu un gros mot, d'autant plus qu'on parle d'un organisme... vraiment très simple, non animal. Disons que le terme personnalité, voilà, on a des facilités à l'utiliser quand il s'agit des chevaux, des chats, des chiens, des singes, pourquoi pas. Un peu moins quand il s'agit d'une grosse cellule. Mais en tout cas, de ces différences individuelles, c'est aussi comme ça qu'on peut les appeler de manière plus parcimonieuse. C'était l'idée de regarder comment ces différences d'exploration, de déplacement, pouvaient influencer la prise de décision.
Vous êtes sur une très longue expérience qui vous occupe depuis plusieurs mois. Au niveau de la prise de décision, qu'est-ce que vous testez ? Donc, vous regardez un choix, par exemple, alimentaire ?
Oui, donc le blob, il aime manger.
On le comprend.
Voilà, il mange tout le temps. Et donc, on est parti. Donc, c'est effectivement une expérience qui dure depuis presque un an, là, qui se finit. Et donc, on commence à en voir les résultats. On lui propose deux choix, deux options entre différentes concentrations de glucose. On utilise le glucose. Ce qu'on veut savoir, c'est les mécanismes de prise de décision. Donc, en fait, il y a un compromis qui a été longtemps, qui a un petit bout de temps maintenant, qui a été développé, qui en fait existe aussi chez nous, qui est en fait le compromis entre vitesse et précision. C'est-à-dire que prendre une décision rapide et précise, c'est souvent pas possible. Il faut faire le choix. Donc c'est soit on passe beaucoup de temps à comparer les options, vous achetez un ordinateur très 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 cher.
Pesez le pour et le contre.
Voilà, vous regardez toutes les... Ah, je ne trouve pas le mot.
Les caractéristiques.
Les comparaisons, les avis, les prix. Est-ce que ça vaut le coup comme ça, etc. Donc ça vous prend beaucoup de temps, mais à la fin, vous espérez avoir fait le bon choix. Ou vous prenez une décision rapide et vous passez à autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il s'agit de choisir entre, je ne sais pas, deux baguettes de pain, peut-être que là, vous prenez un petit peu plus de temps. Parce que, aussi, finalement, le choix n'est pas aussi important. Donc, ça va être un peu aussi la même chose chez Physarum. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer sur les concentrations de glucose et on veut savoir si lui aussi il est soumis à ce même compromis de vitesse et précision. Donc il y a une étude qui a déjà été publiée l'année dernière, qui n'utilisait pas le glucose, mais qui utilisait d'autres substances, et qui montrait qu'effectivement, on avait un compromis vitesse-précision, et que ceux qui prenaient des vitesses très rapides avaient souvent tendance à se tromper. Et par tromper, en fait, on entendait choisir la plus petite concentration. Et en fait, cette étude montrait aussi qu'il y avait a priori un effet des caractéristiques individuelles. Donc, elle utilisait trois souches, l'américaine, la japonaise et l'australienne. Et la japonaise était la plus rapide et faisait a priori plus d'erreurs.
D'accord, parce qu'il va plus vite.
Il va plus vite. Mmh. Plus d'erreurs que la plus lente. Et au sein même des souches, donc quand on peut découper le blob en plein de petits morceaux, on testait ces plein de petits morceaux séparément, et les morceaux les plus rapides faisaient plus d'erreurs que les morceaux les plus lents. Donc ça a ouvert en fait tout un tas de questions. C'est assez fréquent quand même en science, c'est-à-dire qu'on répond à une question puis on en a quatre autres qui arrivent derrière. Et en fait, il y avait quelques résultats qui rentraient pas complètement dans les cases de ce compromis vitesse-précision. Ça avait pas l'air de correspondre à ce que les hypothèses nous donner. Et donc, en fait, le projet là qu'on est en train de terminer et qui dure depuis un bout de temps a consisté en fait à utiliser beaucoup plus de choix. Donc là, il n'y en avait que 3 dans cette étude. Nous, on en a 41.
Donc des glucoses plus ou moins concentrées.
Exactement.
D'accord.
C'est ça. Et en, voilà, en utilisant surtout que le glucose, parce que dans l'étude précédente, il y avait des mélanges de nourriture. Donc là, on s'est dit, on joue que sur le glucose et la concentration. D'utiliser plein de souches, donc on en utilise 6, okay. Là où l'étude précédente d'Audrey n'en avait que 3, et on en utilise en plus des nouvelles qu'on n'a jamais testées, dont on a un peu tout à découvrir.
Et toujours la même espèce, c'est toujours...
Toujours Physarum polycéphalum. On a au laboratoire une autre espèce, Badamia, mais on ne l'a pas encore intégrée dans nos protocoles. Ça, là déjà, les expériences que j'ai menées sur ces 6 souches-là, on s'est rendu compte que c'était quand même une sacrée logistique, arriver à toutes les maintenir en même temps dans une forme à peu près égale, etc. Parce qu'il y en a les très rapides, s'épuisent plus vite, il faut les réveiller plus souvent. Les très lentes sont compliquées à réveiller. Pas toutes, voilà, elles n'ont pas toutes la même sensibilité aux choses. Et donc après, la raison pour laquelle cette expérience a duré très longtemps, c'est donc 6 souches, 41 combinaisons, et il nous faut évidemment répéter l'expérience plein de fois, donc on le fait au moins 50 fois, donc, voilà. Donc ça a duré longtemps. Et en parallèle, on a regardé leur comportement en dehors de ce contexte-là, donc on a regardé comment ils exploraient une arène vide, leur attraction au glucose, leur aversion à différentes substances aversives, et on a encore tout un tas d'idées encore... pour essayer de les caractériser et voir si ça joue effectivement sur la précision et la vitesse de leurs décisions, et voir aussi en fait si, par exemple, comme pour la baguette et l'ordinateur, si la valeur des choix a un rôle. Donc l'autre hypothèse en fait, c'est que quand les choix par exemple sont très proches, par exemple deux baguettes faites par le même boulanger, etc., finalement, il n'y a pas vraiment de... Même si on se trompe, ce n'est pas très grave.
Il n'y a pas de conséquences.
Par contre, si on choisit entre, je ne sais pas moi, la baguette de la veille et puis la baguette fraîche qui sort du...
qui sort du four.
Qui sort du four, là, clairement, on n'a pas forcément envie de se tromper. Donc, ça va être... On joue, en fait, on regarde aussi ça, si effectivement la valeur elle-même va influencer. Et c'est vrai que le compromis vitesse-précision, c'était un compromis qui était beaucoup étudié chez les humains en psychologie avec des choix de type quelle est la couleur la plus foncée. Enfin, il n'y avait pas vraiment de récompense, on va dire, à se tromper. Ou en tout cas, il y avait une récompense que quand on répondait bien. Donc c'était tout ou rien. On se trompait, on n'avait rien. On ne se trompait pas, on avait le bon choix, on avait quelque chose. Et dans la nature, c'est un peu différent. Donc si on revient sur l'idée de choisir un partenaire sexuel, choisir... Un habitat, etc. Si on choisit pas le meilleur partenaire sexuel, on en aura quand même un.
On en a quand même un, oui, c'est ça.
C'est ça. C'est pas zéro. Et c'est pareil, si on se trompe de nourriture, on a quand même de la nourriture.
Il vaut mieux la baguette de la veille que pas de baguette.
C'est discutable, mais effectivement, voilà, c'est ça. C'est le principe. Et là, c'est un peu pareil. Donc, on joue sur les différences de concentration. Donc, par exemple, entre 0% de glucose et 5. Donc, effectivement, là, il n'y a rien en face. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Par contre, si on a 4,5 et 5, bon, il y a 0,5% de différence de glucose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer des plombes
à tergiverser.
Ouais, exactement. À chercher la meilleure. Exactement.
Mais c'est-à-dire que même les blobs sont capables de sentir les différences de concentration et optimiser un choix.
Oui. Exact. Alors, je peux rebondir sur l'optimisation. Non, ouais. Parce qu'en fait, ce concept d'optimisation, c'est un truc qui vraiment sous-tend beaucoup l'étude. On va se dire, les animaux, il faut qu'ils optimisent. Ils sont dans la nature, il ne faut vraiment jamais qu'ils se trompent, etc. Et cette idée que les animaux vont tout le temps optimiser, c'est un côté pas très naturaliste. Ouais. En tout cas, qui n'est pas forcément en phase avec la réalité, justement parce que des fois, il n'y a pas la... Il n'y a pas la possibilité, c'est-à-dire qu'il y a un temps fini, il y a des risques, il y a un risque que quelqu'un d'autre nous vole la nourriture, qu'un prédateur arrive, etc. Puis il y a les limites aussi des capacités sensorielles qui fait qu'on ne peut pas optimiser, etc. Mais en tout cas, oui, les blobs sont capables de sentir les différences de glucose. C'est une des sens, on va dire, principales qu'ils utilisent, la chémotaxie, donc la capacité à remonter des gradients de molécules pour se déplacer dans l'environnement, et ils sont capables d'en sentir... tout un paquet.
Tout un panel.
Ouais.
Ce qui est assez impressionnant pour, rappelons-le, un organisme qui n'a pas de cerveau.
Pas d'yeux, pas d'oreilles.
C'est assez fascinant. En tout cas, on attend les résultats et la publication de cette longue étude avec impatience. Merci beaucoup Léa de nous avoir éclairé donc, sur la prise de décision chez animaux et de nous avoir fait découvrir Physarum polycéphalum, le non-animal qui fait des choix et se comporte comme s'il en était un. On finit comme d'habitude avec quelques conseils de lecture. Pour conclure cette émission, je vous propose quelques ouvrages sur le blob et sur les chevaux. Commençons avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, d'Audrey Dufutour, paru aux éditions J'ai lu. Ce petit livre, format poche de 187 pages, écrit et illustré par la chercheuse toulousaine, spécialiste de notre unicellulaire, blobesque, est la bible que vous devez parcourir si vous voulez en savoir plus sur Physarum polycéphalum. Audrey Dufutour nous raconte sa rencontre avec le blob, les expériences qu'elle a menées, mais aussi tout son parcours dans l'impitoyable et ultra compétitif monde de la recherche académique française, et ses rouages parfois impitoyable. Sélection aride des candidats, facteurs d'impact des publications, recherche désespérée de financement, processus de revue par les pairs, rien ne vous sera épargné. Le style est simple, attrayant, drôle et parfois incisif à souhait. C'est un plaisir pour en apprendre plus à tous les niveaux. En complément du livre, je ne peux que vous encourager à découvrir le film documentaire de Jacques Mitch, Le Blob, un génie sans cerveau, sorti en 2019. Dans une ambiance très film d'horreur cheap des années 60, partait sur la trace du blob et de celles et ceux qui l'étudient. On y suit de nouveau Audrey, mais aussi Léa et toute l'équipe toulousaine avant de s'envoler avec elle vers le Japon, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis à la rencontre d'autres équipes. Les images, notamment accélérées des mouvements des blobs, sont sublimes et permettent de visualiser en quelques instants les expériences et leurs enjeux. Et encore mieux, le documentaire est visible intégralement et gratuitement sur la chaîne YouTube du Vortex. Je vous mettrai le lien avec le podcast, bien sûr. Tout, vous saurez tout sur le blob. Pour faire écho à la chronique sur les chevaux, je vous conseille deux livres pour finir. Le premier est un album documentaire très joliment illustré et destiné au jeune public. Il s'intitule « La vraie histoire de Pamir, le cheval de Przewalski » paru aux éditions Nathan, en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Scénarisé par Fred Bernard et illustré par Julie Folk, ce court album coloré de 25 pages retrace la vie réelle de Pamir, un jeune étalon de Przewalski, né à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Après une introduction à la situation de ces animaux en nature, on suit Pamir partir pour le programme en Lozère afin de le réintroduire dans sa Mongolie d'origine. Les deux dernières pages, agrémentées de photos, nous montrent le vrai Pamir et Jean-Luc Berthier, le vétérinaire qu'il soignait. Une chouette et belle histoire aux images soignées qui s'inscrit dans une série de 6 albums retraçant les destins uniques d'animaux devenus célèbres. Pour conclure, je souhaitais vous présenter le livre d'Hélène Roche, « Apprendre à observer les chevaux dans les pas des scientifiques », sorti tout récemment aux éditions Delachaux et Nestlé. Ce livre souple, au format carnet de 144 pages, a été conçu comme un guide du terrain pour comprendre et analyser le comportement de chevaux. À travers 15 fiches, l'autrice et éthologue guide le lecteur pour mettre directement en application des protocoles expérimentaux pour, par exemple, calculer le temps que passe votre cheval à dormir, analyser ses relations sociales ou sa personnalité, et même reconnaître des signes de douleur. Les tableaux d'observation, la façon de noter les comportements, ainsi que des exemples d'expérience sont très clairement détaillés. En plus, à la fin de chaque chapitre, Hélène Roche ajoute une rubrique « Pour réfléchir » où elle évoque des recherches scientifiques récentes en rapport avec le sujet abordé dans la fiche et les observations personnelles collectées au fil de ces années auprès des chevaux. Le tout est extrêmement bien sourcé avec un renvoi aux publications scientifiques détaillées. Un manuel pratique, bien fait, très richement illustré de photographies, au texte simple et efficace qui vous forme parfaitement à l'étude et à l'analyse du comportement animal. Un très bon ouvrage pour toutes celles et ceux qui voudraient se lancer. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.